Ça, c'est le côté d'un Corinthien 3, les collaborateurs de Dieu. Mais il y a le côté aussi de Dieu, dans le chapitre 6, où il est dit « Et la maison, quand on l'a bâtie, fut bâtie de pierres entièrement préparées avant d'être transportées. Et on n'entendit ni marteau, ni hache, aucun instrument de fer dans la maison quand on l'a bâtie. » Ça, c'est le côté de Dieu, c'est le côté silencieux de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Et on l'a vu l'autre jour, jeudi, et sans faire de jeu de mots, le travail de Dieu dans Pierre. Comment tout au long de sa vie, le Seigneur a travaillé en lui, il a comme taillé cet homme. Et peut-être bien que les coups de ciseaux nous font mal quelquefois, mais Dieu nous taille pour nous mettre à la place voulue dans la muraille, ou peut-être à un endroit plus visible ou moins visible dans cet édifice, et puis peut-être qu'il y a des pierres plus simples, mais dans certains édifices, il y a des pierres ouvragées qui ont nécessité plus de travail. Et là, on n'entendait pas de coups de ciseaux. Est-ce qu'on pourrait expliquer l'œuvre de Dieu qui se fait patiemment en silence dans chacun de nos cœurs et dans chacun de nos vies, et ce qui a été fait par Dieu, par exemple, en un an? Il y a un an, nous étions là. Eh bien, en un an, vous ne croyez pas que Dieu a fait un travail au milieu de toutes les circonstances que nous avons traversées depuis un an, et nous en avons traversé? Et Dieu travaille pas seulement par les circonstances, il travaille aussi par sa parole. Vous pensez que quand on entend la parole, Dieu nous façonne quelque part. Dieu taille silencieusement. Ce verset est très beau. Il n'y a pas de bruit. Mais nous devons le laisser faire dans nos cœurs, au travers des épreuves, des difficultés, mais peut-être aussi au travers de moments de paix, de joie. Là, le travail de Dieu, qui pourra jamais le décrire? Eh bien, un jour, ça sera vu dans l'éternité, ce travail de Dieu, il sera... Les pierres alors vont être transportées, comme il est dit ici, elles sont transportées du lieu où nous avons été façonnés, elles vont être transportées peut-être jusqu'à la cime d'un chapiteau. Et on va admirer dans l'éternité ce que Dieu aura fait maintenant pour nous. Un dernier mot avec la pierre de fête. Parce que, on l'a dit souvent et c'est très important, rien n'est plus important que le fondement d'une maison et rien n'est plus désirable que son achèvement. Quelle joie! Quand enfin on met la pierre de fête. Alors maintenant, on ne met plus des pierres sur le fête. Mais autrefois, dans nos régions, et on en trouve encore dans certaines vieilles bâtisses, il y a des pierres de fête. Des pierres qui ont été taillées, légèrement arrondies, des pierres douces, une pierre spéciale qu'on trouve à pas très loin d'ici, au Volamont, pierre grise, qui se taille très bien en arrondi et qu'on met au fête, à la fêtière. Et il en est parlé dans Zacharie 4, verset 7. « Et il fera sortir la pierre du fête avec des acclamations. Grâce, grâce sur elle. » Oui, des acclamations, je le disais, c'est un moment merveilleux dans la construction d'un édifice. Ça prend des mois et il y a eu beaucoup de fatigue, de peine. Et enfin, on arrive au fête. On pose la pierre de fête avec des acclamations. Grâce, grâce sur elle. Et il en sera... ainsi de l'histoire de l'Église, quand Dieu amènera cette pierre de fête, ça sera le triomphe de la grâce, cette grâce qui aura ajouté des âmes et nous aura ajouté en notre temps et nous aura façonné. Ça, c'est tout le travail de la grâce de Dieu. Grâce, grâce sur elle.
Lucien vient de nous parler de très grandes pierres qui sont d'un très grand prix. Eh bien, il y a des toutes petites pierres qui sont très rares, très chères, qui sont très belles. Et c'est ce qu'on appelle des gemmes ou des pierres précieuses. Et il y a derrière ces pierres, il y a aussi une symbolique. Et j'aimerais qu'on rappelle un petit peu ces choses-là et qu'on relise dans l'Exode 28 une description qui est chère à notre cœur. Vous savez, les pierres précieuses sont souvent évoquées dans la parole, mais il y a trois listes particulières. Il y a 12 pierres qui étaient la parure du souverain sacrificateur lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, portant les fils d'Israël sur ses épaules et sur son cœur. Et puis, à la fin de notre livre, il y a encore les 12 fondements dont j'ai parlé au début, qui sont constitués de pierres précieuses. Et le premier des fondements, il est en jaspe et on a bien lieu de penser que c'est du cristal, c'est-à-dire une pierre précieuse d'une pureté incomparable. Entre ces deux listes, il y en a une dont nous ne parlerons pas, c'est Ézéchiel 28, dans ce qui concerne la parure du prince de Tyr qui pour nous est la figure de Satan lui-même. Mais nous évoquons avec plaisir tout d'abord Nous parlerons beaucoup moins des fondements de l'Église de la Sainte Jérusalem. Nous aimerions dire un mot sur Exode 28, au verset 39. Tout d'abord au verset 9. Vous savez que l'essentiel de ce vêtement était formé de deux parties très précieuses, qui étaient l'éphod et puis le pectoral. Eh bien, à propos de l'éphod, il nous est dit ceci, au verset 9, « Tu prendras deux pierres d'onyx et tu graveras sur elles les noms des fils d'Israël, six de leurs noms sur une pierre et les six noms restants sur la seconde pierre, selon leur naissance. » Verset 12, « Tu mettras les deux pierres sur les épaulières de l'éphod, comme pierre de mémorial pour les fils d'Israël, et Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. » Un peu plus loin, au verset 29, « Et Aaron portera les noms des fils d'Israël au pectoral de jugement sur son cœur lorsqu'il entrera dans le lieu saint comme mémorial devant l'Éternel. » Au verset milieu du verset 30, « Quand il entrera devant l'Éternel, et Aaron portera le jugement des fils d'Israël sur son cœur devant l'Éternel continuellement. » N'allons pas parler de ces pierres, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est que pour me rapprocher de ce que j'ai dit précédemment à propos de ces pierres vivantes qui étaient constituées à partir d'une pierre précieuse qui est celle que Dieu nous propose, à savoir le Seigneur Jésus, eh bien, ces pierres, si on regarde leur constitution, de toutes ces pierres précieuses dont nous parle la parole, quatre rangées de trois avec leurs noms particuliers, eh bien, si on regarde leur constitution, elles sont toutes formées d'un élément que j'ai dans ma main et qui est noir et absolument, comment dire, comment penser que le diamant, qui est la plus belle et la plus précieuse des pierres, des gemmes, soit constitué de ce même élément qui est le carbone. Celui-ci est impur, c'est bien évident. Mais le diamant est constitué uniquement de l'élément carbone, pur. Ensuite, les autres pierres, comment diffèrent-elles du diamant? Eh bien, c'est que elles ont de la silice, que je représente ici par un sac de sable. Le sable, c'est de la silice, presque pur. Et puis, certaines pierres ont une cristallisation un peu particulière. Elles sont, leurs constituants se trouvent dans l'argile que j'ai ici. Alors, regardez un peu. Des pierres très précieuses qui, au départ, sont des éléments tellement ordinaires que l'on peut rencontrer dans tous les coins du monde. Du charbon, du sable, de l'argile. Eh bien, vous avez là la différence entre ce que nous sommes sans Christ et de ce que nous devenons avec le travail de Dieu. Ah, certes, il ne suffit pas de mélanger ces trois éléments pour avoir des pierres précieuses, n'est-ce pas? Il faut des conditions de température, de pression, quelques oxydes métalliques pour leur donner la coloration. C'est bien évident qu'il y a toute une transformation. Est-ce que ce n'est pas là justement le symbole, l'image de ce que Dieu opère dans chacun de nous pour constituer de nous des pierres précieuses? Alors, nous avons vu comment nous devenions précieux pour le Seigneur. Mais il y a quelque chose de particulier qui nous permet de rester à la hauteur de ce que nous sommes présentement, de ce que Dieu a fait de nous. C'est le service du sacrificateur. Il y a les pierres, bien évidemment, mais qu'est-ce qui était important? Il était important que le sacrificateur les porte sur ses épaules, centre de la puissance, nous allons dire, et sur son cœur, centre des affections. Et où allait-il? Avec ses fils d'Israël et leurs noms gravés ainsi sur ces pierres précieuses. Eh bien, il se présentait devant l'Éternel. Un jour, oui, certainement, une fois l'an, il nous est dit, mais ils étaient présentés continuellement devant Dieu. Eh bien, c'est ce que nous sommes par grâce. C'est notre privilège. Nous sommes devenus des pierres précieuses, nous sommes précieux au Seigneur et nous sommes précieux à Dieu et nous pouvons compter sur cette ressource merveilleuse qui est la ressource que le Seigneur accomplit. Qu'est-ce que nous sommes, nous, dans notre nature, dans notre humanité? Mais transformés par la vie de Dieu, nous sommes devenus précieux à Dieu, précieux au Seigneur. Et la ressource, c'est que chaque jour, le Seigneur nous présente devant Dieu. Et ainsi, nous sommes gardés, nous sommes portés par lui, portés sur ses épaules et gardés sur son cœur. N'est-ce pas quelque chose de précieux pour nous, pour nos cœurs? Alors, bien sûr que Il y a une image, et nous allons la lire, elle est dans Hébreux 4. Parce que, alors vous allez me dire, mais ce sacrificateur a disparu, il n'en est plus ainsi. Tout le système mosaïque a été remplacé, mais oui, mais il a été remplacé par quelque chose de bien plus précieux. Au verset 14, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, etc. Pouvons le lire tout de même. Retenons ferme notre confession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Le rôle de notre sacrificateur, il est d'autant plus, comment dire, efficace que le Seigneur lui-même a connu tout ce que nous pouvons connaître dans ce monde. Il a été tenté comme nous, à part le péché.